Bonsoir à tous. C'est ma joie d'être de retour pour cette cinquième édition, je crois. On calcule, on compte, hein. On a un abonnement avec l'Église. J'ai beaucoup de joie à être parmi vous et c'est un privilège de revenir d'année en année. Ça permet aussi de suivre l'évolution de la vie des Églises. Et je suis persuadé que Dieu veut nous visiter, vous et moi, ensemble, à l'écoute de sa parole. Nous allons lire ensemble trois passages, et je vous encourage à me rejoindre dans la lecture de ces passages. Le premier, dans le deuxième livre des rois, donc Ancien Testament, dans la première partie de l'Ancien Testament encore, deuxième livre des rois, au chapitre 6, un court récit, une petite histoire, une anecdote, et qui bien qu'elle soit une anecdote, assez curieuse d'ailleurs, va servir de base à nos quatre études. Donc, 2 rois 6, les 7 premiers versets. 2 rois 6, versets 1 à 7, je vous laisse le temps de trouver, prenez le temps qu'il faut, nous sommes en famille. 2 rois 6, 1 à 7, je lis au verset premier, « Les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous nous y ferons un lieu d'habitation. » Élisée répondit, « Allez. » Et l'un d'eux dit, « Consens à venir avec tes serviteurs. » Il répondit, « J'irai. » Il partit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, mon Seigneur, il était emprunté !» L'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé ?» Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, « Enlève-le !» Et il avança la main et le prit. Plus loin dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Ézéchiel, donc après les psaumes, livre du prophète Ézéchiel, Ésaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel, au chapitre 33, Ézéchiel 33, les versets 30 à 33. Oui, il se peut que certains aient une version qui ne donne pas les livres tout à fait dans le même ordre. Ça arrive. Ézéchiel 33, versets 30 à 33. Et toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi près des murs et aux portes des maisons. Et ils se disent l'un à l'autre, chacun son frère, « Venez donc et écoutez quelle est la parole qui vient de l'Éternel. » Et ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique, car leur bouche en fait un sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent les paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Quand ces choses arriveront, et voici elles arrivent, ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. Et puis enfin, dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon Luc, Évangile selon Luc, nous lisons au chapitre 10 de cet évangile, évangile selon Luc, chapitre 10, les versets 38 à 42. Luc 10, 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur m'ait laissée seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Les quatre roues motrices de l'église locale. Quatre roues motrices de l'église locale. Nous aurions pu choisir un autre titre. Pour une église en marche. Pour une église en marche. C'est un thème qui convient d'une manière toute particulière pour un week-end de rentrée d'église, quand on veut faire le point, se fixer des objectifs, prendre des repères, ce qui veut être le cas durant ce week-end ici. Les quatre roues motrices de l'église locale. L'église. L'ecclésia. Vous savez que le mot église est un mot grec qui a tout simplement été francisé. C'était un mot très courant dans le langage des cités grecques, lorsqu'on parlait, par exemple, de l'ecclésia à Athènes, on savait tout de suite ce que cela voulait dire. On savait qu'il s'agissait d'un rassemblement tout à fait particulier d'hommes qui étaient les véritables citoyens de la ville. Seuls ceux qui étaient citoyens, qui étaient capables en quelque sorte de prouver qu'ils étaient les citoyens de la ville et qui, à l'appel des héros, au son de la trompette, quittaient la cité et se réunissaient dans un endroit qu'on appelait le Pnyx, colline, un endroit à l'écart, et là, réunis tous ensemble, avec les prêtres, avec les magistrats, on commençait par offrir des sacrifices aux divinités grecques. Et puis ensuite, eh bien, on tenait une séance un petit peu semblable à la séance de nos conseils municipaux d'aujourd'hui. On prenait la décision, fallait-il partir en guerre contre tel ennemi ou non ? Fallait-il lever tel ou tel impôt? Fallait-il prendre telle ou telle décision pour la bonne marche de la cité? Ces hommes se réunissaient donc à l'écart. Ils étaient littéralement appelés hors de la cité pour prendre ces décisions ensemble sous le regard des divinités païennes. Ecclésia, littéralement appelé hors d'eux. Quand la réunion, les débats étaient terminés, aussi par une cérémonie religieuse, ces personnes retournaient dans la cité. Et là, elles mettaient en œuvre toutes les décisions qui avaient été prises dans cette rencontre spéciale. Et c'est ce mot qui était tellement clair dans sa signification pour les lecteurs, du début du Nouveau Testament, des évangiles, et puis dans le livre des Actes surtout, puis ensuite dans les lettres de l'apôtre Paul, c'est ce mot qui a été utilisé pour parler d'un autre rassemblement. Rassemblement d'hommes, de femmes, de jeunes, d'enfants en âge de comprendre et de prendre une décision personnelle, et qui sont appelés par Dieu hors de ecclésia, appelés hors de, hors d'un système de pensée, hors de modes habituels, hors de certaines manières de vivre et d'être, hors de la domination de Satan, la puissance des ténèbres, des hommes et des femmes appelés hors d'un monde mauvais pour se retrouver ensemble, pour partager ensemble, pour servir ensemble, pour prier ensemble, pour écouter ensemble, pour être solidaires les uns avec les autres, pour s'instruire ensemble, s'encourager ensemble, s'avertir ensemble, partager dans les moments difficiles, et puis sortir au dehors pour partager aussi avec les autres qui ne sont pas encore ces appelés hors d'eux, pour qu'ils connaissent le merveilleux message libérateur de l'évangile de Jésus-Christ, l'ecclésia. Il n'est pas ici question d'église catholique, il n'est pas ici question d'église orthodoxe, il n'est pas ici question d'église protestante. Ça, ce sont les systèmes religieux qui se sont bâtis, qui se sont élaborés tout au long de l'histoire. C'est ce qu'on appelle le christianisme sociologique, qui ont composé d'un tas de gens qui souvent, hélas, aujourd'hui, n'ont de chrétiens que le nom, mais ne sont pas des appelés hors d'eux. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas répondu à l'appel de Dieu. Il n'y a pas eu chez eux de rupture, de changement de conduite. Ils n'ont pas donné leur vie à Jésus-Christ, nous en parlerons. Ils ne sont pas devenus des enfants de Dieu. Ils n'appartiennent pas à sa famille. Ils n'ont pas une vie de famille spirituelle dynamique, comme nous allons le voir. Ils ne connaissent pas les délices de la véritable Église de Jésus-Christ. Je tenais simplement à introduire déjà cette expression « Église » parce qu'elle est tellement galvaudée, elle a tellement évolué dans son sens que très souvent on ne sait plus très bien en réalité aujourd'hui ce que cela signifie. Les quatre roues motrices de l'Église locale. Nous avons dit que nous allions partir de ce texte de 2 Rois 6, 1 à 7, pour, en quatre études, évoquer les quatre roues motrices d'une église en marche. Et je vous vois venir, surtout ceux et celles d'entre vous qui ont une connaissance suffisante des Écritures, et qui n'osent peut-être pas le faire ostensiblement, mais qui se gratte intérieurement la tête, hein, en se disant, mais comment est-il possible d'aller vers un texte comme celui-ci, cette histoire de la cognée du fils des prophètes, pour parler pendant tout un week-end de l'Église? Est-ce bien correct? Alors j'aimerais tout d'abord faire une remarque fondamentale. Le texte que nous avons sous les yeux n'évoque pas un seul instant de manière directe l'Église. Tout simplement parce que l'Église de Jésus-Christ n'est pas présente dans l'Ancien Testament. Son inauguration, vous le savez, se situe dans le livre des Actes, au chapitre 2. Elle est annoncée par le Seigneur Jésus. Dans l'Ancien Testament, il est question du peuple de Dieu. Mais l'Église en tant que telle et ce que, qui est appelé notamment par l'apôtre Paul un mystère, c'est-à-dire une vérité qui a été gardée, voilée pendant tout un temps et que Dieu, à un moment donné de l'histoire, décide de révéler. Il fait tomber le voile sur une grande vérité, une grande réalité. C'est ce que l'apôtre Paul, notamment, va souligner d'une manière toute particulière. Donc, n'allez jamais dire à qui que ce soit que 2 Rois 6, 1 à 7 traite directement de l'Église locale. Il y a dans le texte de 2 Rois 6, 1 à 7, tout d'abord, un enseignement direct. Cet enseignement direct va nous intéresser d'une manière toute particulière dans notre dernière étude, dimanche matin. Là, nous verrons certaines applications très très directes au texte. Il est dans la Bible parce que Dieu a quelque chose à dire aux hommes de tous les temps à travers ce texte. Maintenant, il y a aussi un enseignement indirect. C'est-à-dire qu'un tel texte peut servir d'appui, d'aide pédagogique, d'image, d'illustration, de leçon de choses, pour donner un enseignement dans d'autres domaines que celui qui est directement dans le texte. Et c'est ce que nous allons faire. Ce qui est magnifique, vous allez le voir, c'est que ce texte-ci, dans 2 Rois 6, 1 à 7, suggère un certain nombre de grandes vérités qui s'appliquent remarquablement à l'Église de Jésus-Christ. Et vous verrez que nous n'aurons pas besoin de forcer le texte, de le violenter, de jouer les équilibristes ou je ne sais quoi. Non, pas du tout. Nous verrons, au contraire, qu'il y a dans ce texte des suggestions saisissantes et qui peuvent être facilement mémorisées, retenues. Et c'est ça ce qui est important aussi, n'est-ce pas? C'est que nous puissions retenir ces choses pour ensuite les vivre dans nos vies personnelles et d'église. Donc, suggestion très forte pour comprendre des grandes vérités concernant l'Église de Jésus-Christ. Et je suis personnellement convaincu que si ce texte est là, dans l'Ancien Testament, c'est aussi parce que Dieu, indirectement, voulait se servir d'un tel texte pour éclairer, pour illuminer, pour rendre pratique certains des enseignements, des grandes vérités du Nouveau Testament concernant l'Église. Ça, c'était ma première remarque, je la devais, pour éviter que nous soyons tentés de penser n'importe quoi. Et vous savez, il faut toujours faire très attention de ne pas appliquer les textes de la Bible n'importe comment. Il y a des précautions à prendre, et c'est aussi pour cela que je le souligne. Deuxième remarque préliminaire, comment la pensée m'est-elle venue de partir d'un tel texte? Je crois que ça vaut la peine d'être brièvement raconté. En décembre 1970, j'ai commencé un ministère, donc de responsable, d'une petite église évangélique dans les Côtes d'Armor. À l'époque, c'était les Côtes du Nord, dans la petite ville de Paimpol, bien connue en matière de tourisme et de folklore. Et le premier dimanche de décembre 1970, je devais un petit peu, si vous voulez, présenter à cette église un programme de travail. Mon souci, c'était d'essayer de partager avec cette église locale la vision, à partir des Écritures, du fonctionnement d'une église locale, pour que nous puissions travailler ensemble en bonne harmonie. Et j'avais donc longuement réfléchi dans la semaine précédente, me demandant quel texte pourrait illustrer la manière dont je comprenais le fonctionnement d'une église locale. Et curieusement, durant cette semaine, De manière extrêmement claire, Dieu a fait remonter dans mon cœur et dans ma mémoire ce texte de 2 Rois 6, 1 à 7, qui m'avait impressionné 4 ou 5 ans auparavant dans l'écoute d'un homme de Dieu africain qui est auprès du Seigneur maintenant, qui traitait d'ailleurs d'une toute autre question. Mais c'est ce texte qui est remonté à mon cœur. Et donc ce dimanche-là, de manière très brève, j'ai partagé les 4 points que nous développons maintenant en 4 études. Et puis, 9 années se sont écoulées. Et en début décembre 1979, nous devions quitter la Bretagne et cette église pour nous rapprocher de la région parisienne à cause de mon nouveau ministère. Et je me suis alors demandé, mais que vais-je dire aux membres de cette église qui s'était bien développée entre-temps, nous avions été très encouragés, que vais-je dire aux membres de cette église au moment de les quitter? Et en réfléchissant devant Dieu, j'ai été convaincu que la meilleure et la plus simple des choses à faire consistait à reprendre le même texte de 2 Rois 6, 1 à 7 et d'essayer, avec cette église locale, de faire le bilan de ces 9 années de travail ensemble pour voir dans quelle mesure nous avions pu atteindre certains objectifs, les domaines qui étaient encore en friche, où nous avions peut-être failli, là où peut-être une des roues motrices avait des problèmes de pneus un peu usés ou un peu dégonflés, que sais-je encore. Et c'est ainsi que ces 9 années de ministère ont été encadrées par ce message de 2 Rois 6, 1 à 7. 4 pneus devant être gonflés à la bonne pression en vue d'un voyage à la gloire de Dieu. Dieu veut que nos églises soient dynamiques. Non pas qu'elles soient de la dynamite à tout casser, mais qu'elles soient dynamiques. La dynamique est la partie de la mécanique qui étudie le mouvement considéré dans ses rapports avec les forces qui en sont les causes. Dynamique de l'église locale. Voilà ce qui va nous intéresser. La dynamique de l'église locale. Faut-il enfin, avant de considérer la première des 4 roues motrices, faut-il enfin, quand même au passage, ressouligner, parce qu'on ne le fait jamais assez, l'importance de l'église locale. J'avais introduit, je crois en 1994, une série d'études sur l'église communauté de service par l'importance de l'église locale. Et il faut le dire, parce que nous sommes tellement tentés par l'esprit d'indépendance. Nous courons facilement d'un lieu à l'autre. Ce n'est pas un reproche que je fais ce soir à ceux qui nous ont rejoints. Je crois qu'il est bon, de temps en temps, de vivre des moments forts dans la communion fraternelle avec d'autres églises locales, mais il serait par contre très dangereux de le faire tous les dimanches, comme certains le font, qui pensent pouvoir zapper, comme quelqu'un l'écrivait, ils sont toujours plus nombreux à zapper, de réunion en réunion, de concert chrétien en concert chrétien, de séminaire de formation en séminaire de formation, de retraite spirituelle en retraite spirituelle, de manifestations évangéliques à d'autres, aux dépens de leur enracinement dans la vie d'une église locale. Toute chose excellente en soi, mais qui en viennent à priver certains de s'engager de manière responsable dans une communauté laquelle souffre ainsi de leur absence. Non, Je le redis. Non au chrétien Robinson Crusoe, qui se promène, qui n'a pas de racines, et qui, à cause de cela d'ailleurs, vit un christianisme souvent extrêmement douteux. Prenons cette première roue motrice de l'Église locale. C'est la première. Elle nous est suggérée en premier lieu, indirectement, dans ce texte. Elle vient en premier, mais c'est aussi une roue motrice pour l'Église locale absolument prioritaire. C'est par là que nous devons commencer. Il ne me viendrait pas à l'esprit de commencer sur ce thème par une autre roue figurant dans le texte. Non. Elle est là, d'emblée, dans les premiers mots de ce chapitre 6, dans cette petite expression déjà, les fils des prophètes. Les fils des prophètes dirent à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. L'Église locale en marche, une communauté de fils des prophètes. Vous rendez compte ? Fils et filles des prophètes. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ? Alors essayons de tout d'abord comprendre de quoi il s'agissait à l'époque, puisqu'il est très peu question des fils des prophètes dans l'Ancien Testament. Ils appartiennent à une brève période et ils n'apparaissent clairement que du temps d'Élie et d'Élisée, hein, ces deux prophètes qui se succèdent. Les fils des prophètes. Alors, il semble que ce soit Samuel, nous avons les premiers et deuxièmes livres de Samuel, Samuel, qui ait institué des écoles des prophètes. Des écoles des prophètes, afin de susciter et de former des hommes capables de rappeler la parole de Dieu à une nation juive infidèle. Apostate, qui s'était éloigné de manière scandaleuse, choquante de Dieu. Il suffit de lire les chapitres précédents, de lire le premier livre des rois au chapitre 16 et suivant, déjà même précédemment, tous ces rois qui se sont succédés, notamment le roi Achab et sa femme Jézabel, qui ont plongé le royaume d'Israël dans une infidélité absolument bouleversante. C'était une période où le peuple était très très loin de Dieu, dans l'idolâtrie jusqu'au cou. Et Dieu a donc suscité ces sortes d'écoles bibliques de cette époque. Des jeunes gens qui se préparaient au pied des prophètes pour pouvoir bien connaître Dieu et pour pouvoir ensuite s'adresser à cette nation juive qui vivait des choses abominables sous les rois impies, les fils des prophètes. Il vous a dit que ces fils des prophètes étaient littéralement des hommes assis. Des hommes assis au pied des prophètes de leur temps. Le lieu où nous sommes assis devant toi. On voit cette même expression dans quantité d'autres textes, dans Deux Rois au chapitre 4. Et au verset 38, Élisée revint à Gilgal, il y avait une famine dans le pays, comme les fils des prophètes étaient assis assis devant lui, il dit à son serviteur, « Mets le grand pot, fais cuire un potage, etc. » Cette expression revient telle qu'elle à diverses reprises dans le livre du prophète Ézéchiel. Nous avons lu tout à l'heure un passage, vous vous souvenez, dans Ézéchiel 33. Hein, vous vous souvenez que nous avons lu au verset 31, « Il se rend en foule auprès de toi, hein, Ézéchiel était prophète, mon peuple s'assied devant toi, ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique, et vous avez quantité d'autres passages dans Ézéchiel 8:1, 14:1, 20:1, à diverses reprises, les anciens du peuple d'Israël viennent s'asseoir aux pieds du prophète. Des hommes assis aux pieds des prophètes de leur temps. Des hommes assis pour apprendre. Des hommes assis pour entrer dans la pensée de Dieu, pour comprendre sa mentalité, sa volonté, ses desseins. Des hommes assis pour se former en vue d'être les porte-paroles de Dieu auprès de leurs contemporains. Alors quelques mots au sujet des prophètes. Quelles sont les caractéristiques des prophètes? Alors par exemple, lorsque le prophète Élie se présente, dans 1 Roi 17, verset 1, il est dit, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Gala, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, ou littéralement, devant qui je me tiens. Donc Élie le prophète annonce qu'il est un homme qui se tient devant Dieu. Les prophètes étaient donc des hommes qui vivaient dans la présence de Dieu. Des hommes qui vivaient d'une manière toute particulière dans son intimité. Des hommes imprégnés de sa pensée, de sa parole, de sa mentalité. Des hommes qui développaient au travers de leur approche de Dieu, par sa parole, une vision de sa sainteté, un discernement aigu de sa volonté, des hommes qui avaient une oreille exercée à son écoute, des hommes qui vivaient au contact étroit de ce que Dieu avait déjà révélé de sa parole. Bref, les prophètes étaient des amoureux de Dieu, des passionnés de Dieu. Quand on entend le prophète Jérémie, par exemple, dire dans Jérémie 15:16, « J'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées, tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. » Quelle image, hein ? J'ai recueilli tes paroles, je les ai dévoré, tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Des hommes qui aimaient profondément Dieu et sa parole. Pour eux, Dieu n'était pas du vernis à ongles. Ils l'aimaient de tout leur cœur. Ils étaient passionnés de sa personne. Ça, c'est la première remarque. Deuxième caractéristique, c'est ces hommes n'étaient pas des sortes de moines qui se cloîtraient pour vivre de manière privilégiée, très près de Dieu, qui s'isolaient du monde, pas du tout. Ces hommes vivaient très près de Dieu, dans l'intimité de Dieu et de sa parole, pour être ses porte-paroles. D'ailleurs, les trois termes hébreux dans l'Ancien Testament rendu par le mot prophète, vont tous les trois dans la direction du porte-parole. Ils étaient les porte-paroles de Dieu. Ils sortaient de la présence de Dieu, de l'intimité de Dieu, pour transmettre le message divin aux hommes de leur temps, à la nation. Ils étaient les héros de Dieu. Ils étaient la bouche de Dieu. D'ailleurs, il est intéressant de constater, par exemple, dans le livre du prophète Amos, au chapitre 3 et au verset 7, ce que la Bible dit à leur sujet. Ainsi, le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Comme si Dieu, de son côté, se plaisait à communiquer d'une manière toute particulière avec ses prophètes en leur donnant mandat de partager avec la nation ce qu'il leur disait au sujet de l'état de la nation, au sujet de l'avenir de la nation. Et c'était un message qui dépassait même infiniment toutes les, je dirais, les capacités même de ces prophètes. Ces prophètes ne réalisaient pas qu'ils disaient parfois des choses absolument extraordinaires, qui annonçaient par exemple la venue de Jésus-Christ, etc., n'est-ce pas ? Des héros de Dieu, ils étaient la bouche de Dieu. Dieu dira à Jérémie, dans Jérémie 15-19, « Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. » Il fallait donc que les prophètes soient des hommes qui aient vraiment un niveau de vie qui honore Dieu dans le domaine de la sainteté. Ils ne vivaient pas n'importe comment. Ils avaient à cœur d'honorer Dieu par la qualité de leur vie. Ils avaient l'intelligence des temps dans lesquels ils vivaient et ils pouvaient tour à tour avertir, menacer, exhorter, consoler, encourager, avec une autorité spirituelle toute particulière. J'ai là un auteur qui dira par exemple ceci, au temps de l'Ancien Testament, le prophète servait de conscience à la nation. Il s'élevait contre les abus religieux de son temps. Il exhortait à l'obéissance à la loi divine et avertissait de la venue du jugement en des termes on ne peut plus clairs. Les signes d'un vrai prophète étaient qu'il recevait son message directement de Dieu. Il devait être indifférent à la réaction du peuple et à son message. Il ne devait tenir aucun compte des conséquences qui pourraient influencer son bien-être ou confort personnel. Les prophètes n'étaient que des instruments qui dépendaient complètement de celui qui les employait. Ils étaient la voix, mais non celui qui parle, le message, mais non celui qui l'envoie, les instruments musicaux, mais non l'artiste. Conscience morale et spirituelle de la nation. Ils étaient des sentinelles. Ils étaient des guetteurs. Nous dirions aujourd'hui qu'ils étaient des radars de Dieu. Ils étaient des sonars de Dieu pour leur époque. Ça, c'est la deuxième remarque caractéristique particulièrement importante. Est-ce qu'ils étaient des surhommes pour vivre de cette manière, pour accomplir un tel mandat loin de là? Ils étaient des hommes de la même nature que nous. Des hommes sensibles. Des hommes qui aimaient leur nation et qui étaient souvent terriblement déchirés dans leur cœur parce qu'ils s'identifiaient à leur nation. Mais ils ne pouvaient pas la suivre dans ces voies de désobéissance. Et à cause de cela, ils étaient souvent incompris de leurs contemporains, habitués à marcher à contre-courant, habitués à souffrir. Nous l'avons lu, ils devaient être indifférents à la réaction du peuple à leur message. Ils devaient accepter les conséquences sur leur confort, sur leur bien-être personnel. Ils étaient en quelque sorte destinés à être des signes de Dieu pour leur génération. Et Dieu leur demandait parfois des choses étranges. Quand on voit un peu ce que Dieu a demandé à Ézéchiel ou à Jérémie, pour choquer, pour remuer les consciences, assoupis, endormis, endurcis. C'était difficile. Jérémie qui ne devait pas se marier, qui ne devait pas aller dans une maison de deuil, fêter les événements de la vie, qui qui devait parfois s'accoutrer de manière bizarre, faire des gestes tout à fait particuliers qui interpellaient, qui obligeaient les gens à se grouper autour de lui, à lui poser des questions. « Mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Qu'est-ce qui t'arrive ?» C'était difficile pour eux. Des instruments dépendant complètement de celui qui les employait. Écoutez cette parole du prophète Jérémie. Jérémie 27 à 11. « Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. Je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie, que je dénonce la violence et l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Car j'apprends les mauvais propos de plusieurs. L'épouvante règne alentour. Accusez-le et nous l'accuserons. Tout ce qui était en paix avec moi observe si je chancelle. Peut-être se laissera-t-il surprendre et nous serons maîtres de lui. Nous tirerons vengeance de lui. Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. » Voilà, un tout petit extrait. Tout cela en même temps qui peut vraiment nous donner envie de lire les livres des prophètes parce qu'ils correspondent tellement à la situation du monde de notre époque et hélas trop souvent aussi à la situation de nos églises aujourd'hui. Alors vous comprenez pourquoi je vous ai dit cela. J'ai partagé cela avec vous parce que cela nous aide à comprendre le privilège des fils des prophètes. De ces jeunes gens qui s'asseyaient à leurs pieds. Quel privilège extraordinaire! Que celui de pouvoir les regarder vivre, que celui de pouvoir les écouter, écouter le message des prophètes, être aux premières loges, comme le furent plus tard les disciples de Jésus. C'était entrer dans la pensée de Dieu d'une manière particulière, c'était découvrir les desseins cachés de Dieu. C'était aussi, dans certains cas, être spectateur des miracles de Dieu. Et il se trouve qu'avec Élisée, les fils des prophètes avaient un privilège inouï, parce que Élisée fut un des rares prophètes à avoir, d'une manière toute particulière, un ministère tissé de miracles, dans lequel Dieu intervenait. Il n'y a que deux résurrections dans l'Ancien Testament, et l'une des deux résurrections se situe précisément lors du ministère du prophète Élisée. Alors vous imaginez un peu ce que cela signifiait pour eux, être spectateurs des miracles de Dieu. Et ainsi, leur vie pouvait s'imprégner peu à peu du message et du comportement de leurs enseignants. Une église locale, dynamique, une église locale en marche, et ce que je vais dire est paradoxal, une église locale en marche est d'abord une église bien assise. Nous voulons être en marche, il faut d'abord que nous soyons assis. C'est le paradoxe. Une église locale en marche est une église bien assise. Tout à l'heure, en entrant, j'ai jeté un coup d'œil à la devanture de la partie librairie, en quelque sorte, de ce côté, et mon œil est resté accroché par un petit livre remarquable de Watchman Nee, certainement un des meilleurs ouvrages de sa part, qui est un commentaire réduit de la lettre de Paul aux Éphésiens, être assis, marcher, tenir ferme. Être assis d'abord. Une église locale en marche est d'abord une église bien assise. C'est-à-dire une communauté à l'écoute de Dieu, dans sa parole. Une communauté à l'écoute de Dieu dans sa parole. L'église locale est tout d'abord une famille de disciples assis aux pieds des prophètes. Dans ce sens-là, fils et fille des prophètes. Je ne vais pas faire du védétariat hein, ce soir. En disant, ben oui, vous êtes assis.
Ça serait très dangereux, hein? Parce que l'idée est beaucoup plus profonde. C'est vrai que Dieu se sert dans l'église locale d'instruments qu'il équipe pour l'enseignement. Encore faut-il que ces instruments ne disent pas trop de bêtises. Qu'ils soient solidement ancrés dans les Écritures et dans la totalité des Écritures. C'est pourquoi j'aimerais aller plus loin. L'église locale est une famille de disciples assis au pied des prophètes, des porte-paroles de Dieu selon la définition la plus juste du ministère prophétique dans les Écritures. Et quand je veux parler des prophètes, je veux parler d'abord et avant tout, des quelques 40 environ, 40 prophètes inspirés. Inspirés au plus haut degré, qui sont les rédacteurs, donc inspirés, des Saintes Écritures. C'est là que je veux venir tout d'abord. Notre école de prophètes, c'est d'abord l'école de la parole de Dieu. Et j'ai dit des quelques 40 porte-paroles, puisque nos 66 livres, qui constituent ce qu'on appelle la Bible, ont été rédigés sous l'autorité suprême et parfaite, et par l'inspiration de Dieu, par le moyen donc d'une quarantaine de rédacteurs, de conditions très différentes, et sur environ 1500 années de temps. Je n'ai pas dit que nous devons nous asseoir au pied d'un seul prophète ou de deux prophètes, mais vraiment nous asseoir au pied de l'ensemble des prophètes. C'est-à-dire que nous devons nous asseoir au pied de Moïse, qui nous a laissé les 5 premiers livres de la Bible, et le psaume 90. Nous devons nous asseoir au pied de David, qui nous a laissé, en tout cas, sur la moitié des 150 psaumes, mais peut-être d'autres encore, puisque certains ne sont pas signés de leur rédacteur. Nous devons nous asseoir au pied du prophète Ésaïe, du prophète Jérémie, du prophète Ézéchiel, de Daniel. Nous devons nous asseoir au pied de ceux qui nous ont laissé les 4 évangiles et les actes, au pied de l'apôtre Paul, qui nous a laissé quand même, en tout cas, 13 des 27 livres du Nouveau Testament, et ainsi de suite. Nous asseoir au pied de ces prophètes pour apprendre de Dieu. Pour apprendre de Dieu. Je veux être fils des prophètes. Cela veut dire qu'il doit y avoir dans ma vie une dimension d'intimité, une dimension de proximité. Il doit y avoir des rapports étroits entre ces livres de la Bible, dans leur contenu, et moi. Il doit y avoir des relations de famille, d'amour, d'identification, de ressemblance, d'imprégnation. Chaque membre de l'église locale est un fils des prophètes, imprégné de la parole de Dieu. De la parole de Dieu méditée, c'est-à-dire littéralement, selon le texte hébreu, murmurée, ruminée, copiée, énumérée, mémorisée dans le sanctuaire. C'est ça, être fils des prophètes. Avoir vraiment une relation d'intimité avec la parole de Dieu. Aussi bien au plan individuel pour chacun d'entre nous, tout au long de la semaine, que chaque fois que cette famille de l'église locale est appelée à se retrouver ensemble. C'est autour du Dieu qui parle qu'elle se retrouve et qui parle par sa parole. Assis devant, dit le texte. C'est-à-dire nécessité de prendre du temps. Quand on s'assoit, on doit prendre du temps. C'est une position, n'est-ce pas, qui nécessite du temps. Rien n'est plus désagréable que de se trouver assis à côté de quelqu'un qui bouge tout le temps. Il ne peut pas avoir ses fesses en place sur sa chaise. On ne peut pas considérer que c'est une personne assise. Et il peut y avoir dans une vie d'église locale des membres, des croyants, qui n'aiment pas être assis devant le Seigneur. Ils veulent toujours être en action. Je visite parfois des églises dans lesquelles je me sens mal à l'aise, tout simplement parce que ce sont des églises qui sont tendues comme des élastiques. Ce sont des églises qui ne se reposent plus. Elles sont toujours en train de foncer, en laissant d'ailleurs des éclopés derrière elles, et en ayant perdu toute racine. C'est mauvais. Dieu veut que nous prenions du temps. Vous voyez, vous avez vu tout à l'heure que nous avons lu Luc 10, hein? Différence entre Marthe et Marie. Différence au niveau des priorités. Jésus arrive, Marie s'assoit. Elle n'est pas paresseuse. Elle a travaillé aux côtés de Marthe. Elle a fait le ménage avec Marthe. Mais quand Jésus arrive, Marthe travaille encore plus. Elle a fait le calcul, elle a compté le nombre de personnes et elle commence à casser de la vaisselle tellement... Il faut faire vite, 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 vite pour que Jésus et les autres aient à manger. Et elle ne peut pas du tout supporter cette espèce de mystique de Marie qui a tout laissé tomber pour s'asseoir aux pieds de Jésus et être instruite par lui. Et quand elle s'indigne auprès du maître, Jésus, avec beaucoup d'amour, est obligé de remettre les priorités à leur place. Marie a choisi la bonne part. La seule chose qui est une nécessité absolument vitale. Tout le reste vient après. C'est bon, c'est bien, mais il y a une nécessité vitale. Celle de ne jamais rater ses rendez-vous avec le Seigneur Jésus. Et je sais ce soir que malgré l'apparente banalité de mes propos, je sais que je tape dans le mille. Parce qu'entre nous, soit dit, est-ce que ce n'est pas notre problème aujourd'hui? Est-ce que nous ne sommes pas dans un monde où on court tout le temps? Tout le temps? Mais on court dans des choses, c'est vrai, où parfois on est obligé de courir. Mais est-ce qu'il n'y a pas des moments où nous devrions nous asseoir? Et où, malgré le fait que nous courons tout le temps, même là, quand nous devrions et pourrions nous asseoir, nous continuons à courir. Quand nous courons pour appuyer sur le bouton de la télévision, hein, écoutez, excusez-moi, mais il y a un problème à quelque part. Nous n'avons pas le droit de nous plaindre d'être suroccupés quand ensuite nous courons pour donner à des choses tellement secondaires et parfois tellement problématiques une place qui ne leur revient pas. Assis devant. Assis. Ce qui sous-entend aussi la soumission à l'autorité de. Assis, ce qui signifie une attitude de véritable écoute, humble. Nous l'avons vu dans Ézéchiel 33. Les gens se rendent en foule pour s'asseoir aux pieds du prophète Ézéchiel.
Ils disent, oh, qu'est-ce qu'il chante bien, qu'est-ce qu'il parle bien, qu'est-ce que c'est intéressant tout ce qu'il dit.
Et puis aussitôt quitter le lieu de rassemblement, il peut toujours causer. Nous, on fait ce qu'on veut. Et Ézéchiel de dire, attention mes amis, parce que le message que j'annonce, c'est un message qui va s'accomplir. Et quand il s'accomplira, alors, à ce moment-là, ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. Ils sauront que c'était sérieux, ils sauront qu'il ne fallait pas se moquer, mais ce sera trop tard. Et c'est vrai que c'est à la mode aujourd'hui. On écoute, puis ça passe. J'aimerais dire que nous sommes comptables devant Dieu de ce que nous faisons, de la manière dont nous gérons ce que nous recevons de lui. Et un jour, il y aura un règlement de compte. Que cela nous plaise ou non, un jour, nous saurons que tel soir le Seigneur est passé au milieu de nous avec sa parole. On est sorti en disant, oh, après tout, ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Assis devant Élisée. Dans notre histoire, Élisée qui signifie Dieu et salut. Et Élisée qui, par excellence dans l'Ancien Testament, est le prophète qui, dans son activité, annonce l'activité du Seigneur Jésus sur la terre. Multiplication des pains, résurrection, toutes sortes d'événements que l'on va retrouver dans le ministère de Jésus-Christ. Quand même intéressant. Quand même intéressant. Donc cela me suggère qu'une église en marche est d'abord une église assise aux pieds de son Seigneur. Au pied de son chef, le chef de l'Église, la tête de l'Église, au pied de Jésus-Christ, dans une relation d'intimité, de soumission volontaire à sa parole. Je pense à cet homme de Dieu qui a écrit ceci. J'ai vu un jour une plaque de cuivre sur laquelle la Constitution des États-Unis était gravée si habilement que, regardée de près, ce n'était qu'un texte ordinaire, tandis que si l'on s'éloignait un peu, on voyait apparaître le portrait de George Washington, modelé par les lettres et les blancs. À quelque distance, ce portrait ressortait de l'ombre même des lettres, et l'on ne distinguait alors ni les mots ni les idées, mais la personne seule. Et je pensais, C'est ainsi qu'il faut regarder les Écritures et comprendre les pensées de Dieu pour voir resplendir partout, à travers elles, le visage de son amour, non plus des idées ni des doctrines, mais Jésus lui-même, la vie, la source, la présence constante qui entretient notre vie. L'Église locale, une communauté de fils et de filles des prophètes, tous ensemble et individuellement, assis aux pieds du Seigneur Jésus, de ce Dieu qui s'est révélé d'une manière toute particulière, qui s'est incarné, qui a rendu le Père invisible, visible, cette image parfaite, extraordinaire de Dieu le Père, venu au milieu des hommes. Voilà ce que doit être une église locale d'abord. Chaque fils a son silo, son Tabor, son Gilgal, son Bethel, son Hermon, son Carmel. Vous reconnaissez ces lieux, vous qui lisez les Écritures? Ces lieux de rencontre où des personnes ou des groupes ont passé du temps avec le Seigneur d'une manière toute particulière. Chaque fils a son endroit où il plonge ses racines en profondeur dans le sol de Dieu, où il cherche son Seigneur, où il scrute la face de Christ pour être transformé à sa ressemblance. Et je le dis parce que nous avons commencé par évoquer la Bible. L'Église locale, une communauté de fils des prophètes, vraiment plongée dans les Écritures, mais qui ne devient pas bibliolâtre pour autant. Ce n'est pas la Bible qui est elle-même érigée en divinité. Ce n'est pas la Bible qui devient une sorte d'objet fétiche autour duquel tout le monde se rassemblerait. Je pense à ce que disait cet homme de Dieu, Richard von Brand, qui a vécu près de 14 ans dans les geôles roumaines à cause de sa relation personnelle avec Christ, qui a vu des choses atroces. Et qui a aussi côtoyé d'autres croyants. Et il disait de certains d'entre eux, mais ces croyants que j'ai côtoyés connaissaient leur Bible. Ils étaient capables d'en réciter des chapitres entiers parfois. Ils connaissaient des promesses extraordinaires de Dieu. Ils étaient capables de réciter ce texte de 2 Corinthiens qui dit « Ma grâce te suffit ». Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Mais le problème, c'est qu'ils étaient pourtant profondément malheureux, découragés. Ils broyaient du noir. Ils récitaient les textes les plus extraordinaires et ça ne changeait rien à leur vie. Tout simplement parce qu'ils connaissaient le texte « Ma grâce te suffit ». Mais ils n'avaient pas de relation personnelle vivante avec celui dont la grâce suffit. C'est une chose pour moi que de contempler ce soir en rentrant dans ma chambre une photo de ma femme. C'en est une autre que de lui donner demain soir des gros bisous lorsqu'elle m'attendra, après demain soir, lorsqu'elle m'attendra à la gare, n'est-ce pas ? Certains se contentent de l'image, d'autres veulent la relation intime. Donc, oui pour les Écritures, oui, elles doivent occuper une place essentielle dans ma vie. Toutes les Écritures. Mais mon but, c'est par elles de connaître mon Dieu, de mieux connaître mon Sauveur et Seigneur. De mieux pouvoir le servir, de mieux pouvoir l'aimer. de mieux pouvoir parler de lui autour de moi. Et je voudrais terminer en soulignant l'importance de ce que nous avons dit dans un domaine particulier. Il importe que l'Église locale soit une communauté de fils et de filles des prophètes, donc assis au pied du Seigneur et de sa parole, étudiée, creusée, méditée, parcourue, lue dans sa totalité, et bien sûr vécue. Tout simplement parce que l'Église locale est appelée, je le crois, bien que je me doive d'être prudent quand je le dis, l'Église locale est appelée à prophétiser. Je n'ai pas dit que l'Église locale est appelée à donner des prophéties. Parce que ça, c'est à la mode. Que d'hommes et de femmes, aujourd'hui, et dans de nombreuses églises, s'improvisent prophètes. J'ai une prophétie pour toi. Et mes amis, si nous devions, ou si Dieu n'avait pas de grâce vis-à-vis de ceux qui s'improvisent prophètes de cette manière, beaucoup d'entre eux devraient être lapidés parce que leurs prophéties ne s'accomplissent jamais. Or, le prophète, dans l'Ancien Testament, pour être vrai, ne devait pas raconter n'importe quoi. Le message qu'il disait se vérifiait. Alors, je vais être clair, n'est-ce pas? Il n'est pas question de dire à quelqu'un « Dieu m'a dit que... » Et on sort la Kalachnikov évangélique. Et parfois on se sert de la prophétie pour dire des choses qu'on n'ose pas dire directement. Alors ça passe mieux comme ça, n'est-ce pas? Non. Nous avons dit que les prophètes étaient d'abord des porte-paroles de Dieu, des sentinelles de Dieu, des guetteurs, des radars, des ambassadeurs de Dieu. Dans 1 Corinthiens 14, il est dit au verset 3, « Celui qui prophétise édifie, exhorte et console. » Et dans ce sens, nous sommes tous appelés à être prophètes. Édifier, consoler, exhorter, être sentinelle, être ambassadeur, être porte-parole, être radar, être guetteur. Oui, dans ce sens, nous sommes tous appelés à cela. Et je comprends que même Moïse ait dit dans Nombre 11, 29, « Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. » Et même dans 1 Corinthiens 14, écoutez ça, versets 24, 25, « Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous prophétisent, et qu'il entre un non-croyant, ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. » Parce que quand on vit dans l'intimité de Dieu, même sans que l'on s'en rende compte, Dieu nous utilise. Combien de fois il m'est arrivé à la sortie de certaines études comme celle-ci que quelqu'un me dise « Mais Monsieur Decker, j'ai cru que vous me connaissiez, vous avez dit ce soir un tas de choses, mais c'est ma situation. » Et je pourrais vous raconter des coïncidences très bizarres. J'ai vu des personnes sur certaines chaises parfois faire des bonds comme ça. Tout simplement parce que je donnais un exemple que j'avais préparé dans ma tête. Et que cet exemple, je ne le savais pas, cet exemple collait mais juste, y compris parfois des questions de date et de lieu, avec la situation de personnes qui étaient au premier rang et je pense à une personne qui venait de poser une question avant la réunion à sa voisine. Et ce soir-là, c'était simplement dans l'illustration que Dieu lui a donné la réponse. Je ne le savais pas. Mais quand on vit dans l'intimité de Dieu sans nous en rendre compte, on devient porte-parole de Dieu. Pour ceux qui nous entourent, vous vous rendez compte que l'impact d'une église locale ayant cette caractéristique est extraordinaire. Des frères et des sœurs rassemblés, quelqu'un qui ne connaît pas encore Jésus qui entre et qui peut dire « Mais oui, c'est pas comme ailleurs ici. » Ici, j'ai vraiment le sentiment que Dieu parle à mon cœur. Ce Dieu que je cherche parle à mon cœur. Mais bien aimé, pour qu'il en soit ainsi, il faut se mettre aux pieds du Seigneur, être à l'écoute du Dieu qui parle dans sa parole. Or, reconnaissons-le, est-ce que nous aimons écouter? Nous sommes de puissants postes émetteurs aujourd'hui, mais nous sommes généralement de très mauvais récepteurs. Nous avons beaucoup de peine aujourd'hui à nous asseoir pour écouter, pour passer du temps dans la présence de Dieu, devant sa parole, pour nous laisser imprégner de sa pensée, de manière à pouvoir ensuite aller vers les autres pour partager ce beau message de sa part. Ésaïe 50, verset 4, « Le Seigneur l'Éternel m'a donné la langue des disciples, la langue des apprentis, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est fatigué. » Et pour que ce soit possible, qu'est-ce qui se passe? Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute à la manière des disciples. Une oreille ouverte pour une langue exercée. Si nous voulons être un peuple témoin de Dieu dans ce monde, un peuple en marche, il faut que vous et moi, aujourd'hui, nous soyons d'abord en priorité absolue un peuple assis à ses pieds. Il n'y a pas de secret. Pas de recette miracle. C'est comme cela qu'une église peut ensuite, comme nous le verrons demain après-midi, devenir une église contagieuse. Ça, c'est pour demain après-midi. Mais nous allons nous arrêter là ce soir. Seigneur, nous te bénissons de ce que tu as voulu ce soir dans cette première rencontre nous rappeler. Cette priorité absolue, ce domaine dans lequel nous sommes si facilement attaqués, vulnérables, dans ce monde fou, qui veut nous entraîner dans un tourbillon d'activités qui nous empêche de prendre le temps pour l'essentiel. Pardon pour les chronophages, pour toutes les activités parasites, secondaires, qui prennent la place du temps que nous devrions te donner. Seigneur, fais de nous et refais de nous des fils et des filles des prophètes. D'abord assis individuellement, dans le secret, jour après jour, dans ta présence, exerçant notre oreille à ton écoute sur la base de ta parole. Et puis aide-nous, Seigneur, dans notre vie d'église, à ne jamais perdre de vue cette priorité, de nous laisser aussi ensemble, enseigner par toi, recevoir de toi tout ton conseil, pour ne pas rester des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine, mais qui croissent, qui deviennent des adultes, mûrs, équilibrés, des pères et des mères spirituels, féconds. Seigneur, fais-le et donne-nous tout au long de cette année qui s'ouvre après les vacances d'été de ne jamais perdre de vue cette priorité essentielle. Nous te bénissons, tu nous laisses repartir ce soir en serrant dans nos cœurs ce message. Que ce ne soit pas simplement le chant d'un habile musicien, mais que ce soit ce soir, de ta part, une parole prophétique pour nos besoins, en tant qu'Église et en tant qu'individu. Merci Seigneur, en Jésus-Christ. Amen.